Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est encore et toujours une joie d'ouvrir ensemble la bonne parole de notre Dieu, parce que par là, il veut nous révéler ses caractères bénis, en particulier son amour et sa grâce. Il veut aussi, de cette manière, nous rappeler son puissant désir de sauver tous les hommes. Il veut aussi, ainsi, produire et faire grandir dans nos cœurs la foi vivante, la foi véritable, qui est pour nous le moyen privilégié de le voir répondre à nos prières et accomplir des miracles dans nos vies et dans d'autres. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17, il est ainsi écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et ensuite, « Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. » Et c'est aussi en rappel de cela que nous voulons partager un beau témoignage qui, comme souvent, nous montrera plusieurs choses. Je vous partage ce témoignage qui concerne le pasteur Gustafsson qui venait juste d'arriver à ce moment-là dans la ville d'Eskilstuna pour 12 années de pastorat fécond et béni. Et beaucoup avaient entendu parler de son ministère. Et dès les premiers jours de son arrivée, quelqu'un lui demanda d'aller prier pour une femme malade. C'était le premier samedi qu'il passait dans cette nouvelle ville. Son épouse était occupée à vider les cartons du déménagement et le pasteur avait besoin de tout son temps pour préparer son premier culte pour le lendemain matin. Il avait donc des raisons sérieuses pour remettre à plus tard cette visite, mais Jörg Gustafsson ne pouvait pas dire non à qui avait besoin de lui. Il promit donc de venir. Cette femme malade était l'épouse d'un métayer. Elle était alitée. Et le pasteur comprit tout de suite que son cas était grave. Sa température s'élevait à 41 degrés, ses jambes étaient enflées et couvertes de plaies, elle souffrait d'une infection généralisée, une septicémie. La première pensée du pasteur fut de l'envoyer à l'hôpital en ambulance. Il s'imaginait fort bien ce qui pouvait se passer. S'il priait pour cette femme et qu'elle mourait là, dans son lit, la nouvelle se répandrait que le nouveau pasteur était venu prier pour elle, au lieu de la diriger vers l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins. Il serait donc accusé d'avoir contribué indirectement à sa mort. Alors qu'il était là, évaluant la gravité de la situation, ému de compassion pour cette femme souffrante, il entendit son mari soupirer. « Oui, et ce n'est pas seulement ma femme Hilda qui est malade. Rosa, notre seule vache, est aussi dans un triste état. À plusieurs, on a essayé de la lever, mais c'est impossible. » Dans une heure, le boucher va venir pour l'abattre. Une pensée traversa alors rapidement l'esprit du pasteur. Il vit là l'occasion de mettre Dieu à l'épreuve, un peu comme Gédéon avec la toison de laine. « Puis-je voir la vache ? » demanda-t-il. « Oui, ça peut se faire, » dit le métayer. « Elle est dans l'étable. » Précédant le pasteur, il montra le chemin. Dans son cœur, Jörg fit monter à Dieu une prière instante. « Seigneur, si tu guéris Rosa, je prends cela comme le signe que tu veux aussi guérir Hilda. » La vache était couchée dans un coin de l'étable. De ses yeux, on ne voyait que le blanc. Mais Jörg se mit à genoux dans la paille, à côté d'elle. Il posa la main sur la tête de l'animal et dit simplement « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi !» Alors la bête ouvrit les yeux et regarda le pasteur. Puis elle beugla fortement. Ses pattes commencèrent à bouger et avec un petit effort, elle se leva et se tint debout. Le métayer regarda tantôt la vache, tantôt le pasteur, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Peu après, lorsque le boucher vint pour abattre la vache, il trouva celle-ci en bonne santé, en train de manger du foin. Il savait mieux que quiconque dans quel état elle était quelques heures auparavant, car c'était lui-même qui, accompagné de plusieurs autres hommes, avait essayé de la mettre debout. Entre-temps, le pasteur et le métayer avaient rejoint la femme alitée. Avec une grande assurance, Jörg Gustafsson lui imposa les mains et ordonna la maladie de la quitter. Rapidement, la température baissa, ses forces revinrent et elle fut entièrement guérie. Le lendemain, elle était à l'église et témoignait de sa guérison. Ses jambes enflées et couvertes de plaies étaient redevenues comme les jambes d'une jeune fille. Alors nous avons dit que ce témoignage admirable nous montre plusieurs choses. Déjà, en premier, que la foi n'est pas aveugle, qu'elle n'est pas fanatique. La foi n'empêche pas le bon sens et le sens des responsabilités. C'est fort légitimement que le pasteur Gustafsson se pose des questions en évaluant la situation. D'une part, il ne connaissait pas cette femme et son mari. Quelle était donc la mesure et la réalité de leur foi? Et d'autre part, il n'était pas présomptueux. Il voulait connaître la volonté de Dieu et le plan de Dieu dans cette situation et ne s'imaginait pas que Dieu soit obligé de lui répondre quoi qu'il en soit. En deuxième, nous le voyons donc à la recherche d'un signe de la part de Dieu, d'une indication de la part du Seigneur. Il est attentif aux indications que celui-ci peut lui communiquer, quel qu'en soit le moyen. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis en troisième, nous voyons que sa foi lui permet de trouver le moyen de Dieu adapté à la situation pour accomplir le miracle, avec plus d'objectifs d'ailleurs qu'une simple guérison, même miraculeuse. Car le Seigneur voulait aussi sauver cette famille tout entière, leur montrer qu'il pouvait aussi pourvoir aux besoins matériels et à ceux de la ferme, et bien sûr aussi émerveiller et encourager son serviteur et toute l'assemblée, et nous-mêmes, en nous montrant les trésors d'initiative et d'originalité que le Seigneur manifeste pour intervenir dans toute situation. Oui, mes frères et sœurs, mes amis, aujourd'hui encore, il est capable et désireux d'agir dans les situations et les besoins de chacun et chacune d'entre nous, quels qu'ils soient. Et là où nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'issue, que tout est bloqué, qu'il n'y a pas de solution, soyons persuadés qu'il a mille moyens à sa disposition pour que toute chose devienne nouvelle. Béni soit son nom. Amen. Bien voilà, frères et sœurs, nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Mais avant cela, nous prierons encore. Seigneur, nous te remercions pour ce témoignage véridique, pour les belles choses que tu as accomplies à ce moment-là, que tu accomplis encore aujourd'hui, parce que tu es toujours le même, parce que tu ne changes pas. Et merci parce que c'est le fait de trouver des cœurs bien disposés qui te permet d'intervenir librement et sans obstacle en toute situation et en tout besoin. Et merci Seigneur pour justement la bonne disposition du cœur que tu opères par le moyen de ta parole, puisqu'elle est le moyen de produire et fortifier la foi dans nos cœurs. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Voilà, eh bien, donc nous l'avons dit dans Jean chapitre 10 au verset 1er jusqu'au verset 16. « en vérité, je vous le dis, dit le Seigneur Jésus, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Voilà, frères et sœurs, quand nous voyons ces versets, nous lisons qu'il y a question de diverses choses. Il y a question de bergers, de brebis, de portes, de voleurs, de brigands, de mercenaires. Qui sont ces différents acteurs ? Les bruits, bien sûr, c'est nous, tous qui sommes là à l'écoute de la parole de Dieu. Sans exception, en effet, il est écrit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais quand nous avons rencontré Christ, nous ne sommes plus des brebis errantes. » Mais celui dont nous voulons surtout parler cet après-midi, enfin aujourd'hui, c'est du bon berger. Notre bon berger, celui qui est devenu le pasteur de nos âmes. Béni soit le jour où nous avons pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est donc bien de Jésus qu'il s'agit là, puisque lui-même dit dans notre passage au verset 11 « Je suis le bon berger », qu'il répète d'ailleurs au verset 13. Et ensemble, nous verrons au travers de ces versets que nous venons de lire, plusieurs caractères du bon berger du Seigneur Jésus. Déjà, au début du passage, versets 1 et 2, il nous dit qu'il entre par la porte. Quelle porte? Qui est cette porte? C'est encore le Seigneur Jésus lui-même, comme nous le voyons au verset 7 et au verset 9. Jésus est donc le bon berger, et en même temps, il est la porte. Mais comment va-t-il faire alors pour entrer par cette porte, puisqu'elle est lui-même? Comment Jésus peut-il entrer par lui-même? C'est parce que Jésus est en même temps la parole de Dieu, comme nous le voyons dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 1 et au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ainsi donc, quand le bon berger vient à ses brebis, il se reconnaît au fait qu'il passe par la porte de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui prétendent être le bon berger, mais à tort. Jésus nous en avertit dans ces versets, où il parle de voleurs et de brigands. Aujourd'hui, beaucoup de sectes et de religions viennent à vous sous des airs attirants, rassurants. Reconnaissez-les parce qu'elles ne passent pas par la porte de la parole de Dieu. Mais le bon berger, lui, est toujours en accord avec la parole de Dieu. La découverte des rouleaux de la mer Morte en 1947 a été qualifiée de plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Les anciens manuscrits cachés dans les cavernes près de Qumran sont les plus vieilles copies de livres clés de l'Ancien Testament. Il y a eu diverses expositions présentant 24 de ces rouleaux, et un des thèmes qui reviennent à chaque fois pendant ces expositions, c'est qu'au cours des derniers 2000 ans, la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament chrétien, n'a pratiquement pas changé. Et les disciples de Christ, qui croient que la Bible est la parole éternelle et inaltérable de Dieu, considère que cette conservation remarquable est plus qu'une simple coïncidence. L'auteur du psaume dit, dans le psaume 119, au verset 89-90, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Et Jésus a dit aussi, dans Matthieu 24, verset 35, « Mes paroles ne passeront point. » La Bible est plus qu'une relique historique. C'est la parole vivante, permanente, puissante de Dieu, d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, dans laquelle on rencontre le Seigneur et on découvre comment vivre pour lui et pour l'honorer. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances », a conclu l'auteur du psaume, « car c'est par elles que tu me rends la vie ». Psaume 119, verset 93. Quel privilège nous avons de pouvoir chercher Dieu dans sa parole admirable. Et connaître Christ, la parole vivante, c'est évidemment aussi aimer la Bible qui est la parole écrite. Une autre anecdote, il y a quelques années, un train de voyageurs entrait dans New York à toute allure pendant qu'un autre train en sortait. Il y eut un terrible choc frontal, une cinquantaine de personnes périrent. Un mécanicien était pris sous la machine, terriblement blessé, et des larmes coulant sur ses joues, et dans son agonie, il tenait un papier jaune serré dans sa main et disait « Prenez ceci, ça vous montrera que quelqu'un m'a donné les mauvais ordres. » Et les hommes sans Christ se trouveront un jour devant le trône de Dieu, et ils désigneront des prédicateurs d'erreur et des faux prophètes en disant « Quelqu'un m'a donné les mauvais ordres, mais il sera trop tard. » C'est vrai que ce danger dont nous parle le Seigneur Jésus, dont nous avertit le Seigneur dans ce passage aussi, est un danger bien réel, terrible, est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, surtout aujourd'hui, avec le développement de toutes sortes de messages répandus à foison sur Internet. On se trouve effectivement devant cette foule de docteurs, selon leur propre désir, que se prennent les hommes, comme le prophétisait l'apôtre. Et les évangéliques sont bien loin d'être à l'abri. Au milieu d'eux aussi, les paroles de confusion et d'erreur peuvent se répandre facilement. Souvent d'ailleurs, c'est une question de priorité mal placée. Rechercher, par exemple, en premier la puissance du Saint-Esprit, au lieu de la mise en évidence de la croix et de l'œuvre de Christ. Ou alors, voilà, c'est le Saint-Esprit qui, soi-disant, parle, au lieu de mettre en priorité le message de la parole de Dieu. Ensuite, la recherche, en premier, de l'évangile de la prospérité, du succès, de la réussite, sans mettre en priorité le message de la repentance et de la conversion à Dieu. Des hommes aussi qui, sous prétexte de l'Église universelle, se mettent eux-mêmes en avant, ou mettent leur site en avant, au lieu de respecter et de privilégier les églises locales. Des hommes, en fait, qui bien trop souvent enseignent à se servir de Dieu et des choses de Dieu pour satisfaire ses ambitions, souvent leurs propres ambitions. Ça veut dire des ambitions, pardon, sur leurs propres ambitions, au lieu de servir Dieu. Des hommes, voilà, qui se mettent en avant, qui ont vu leur propre ministère au prétendu tel, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui soit prêchée, et Dieu glorifié en premier. Et c'est vrai qu'ils peuvent employer, dans un premier temps, un langage parfaitement évangélique, un message qui paraît tout à fait évangélique au départ. Et il ne faut pas se laisser prendre. Il ne faut pas aller écouter n'importe quoi, même par curiosité. Il faut rester vigilant. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Il faut voir quels sont les fruits qui résultent de cet enseignement. Et si on ne peut pas y avoir accès, il faut prendre garde. Il faut demander conseil. Tout seul, on ne voit pas tout. Le livre des Proverbes nous rappelle que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il faut se souvenir qu'on peut avoir des quantités d'enseignants, mais qu'on n'a pas plusieurs pères. Spirituellement, on n'a qu'un seul père. Il faut veiller sur notre propre cœur, sur nos propres désirs, nos propres motivations, nos dispositions secrètes. Mes amis, ce n'est pas facile de trouver la vérité quand on ne la connaît pas. C'est une recherche exigeante, demandant beaucoup de sincérité, de droiture de cœur. Et c'est encore plus difficile quand on connaît la vérité, mais qu'on s'en éloigne, parce qu'on est insatisfait, parce qu'on est superficiel, ou parce qu'on manque de droiture du cœur. Et c'est pourquoi nous devons bien prendre garde à suivre Jésus. Le véritable évangile, dans toute sa simplicité, dans toute sa plénitude, la parole de Dieu, et ceux que Dieu a établis dans les assemblées pour prêcher cette parole, et vivre nous-mêmes cette parole, la mettre en pratique de tout notre cœur. Voilà, et si je poursuis notre deuxième point, notre deuxième grand point, c'est qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Nous avons vu, c'est dans les versets 3 et le verset 14. Les brebis lui appartiennent. Il les a rachetées personnellement. Souvenez-vous que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Souvenez-vous que Christ a payé le prix pour vous sauver. Et c'est pourquoi tournez-vous vers lui en reconnaissance et en obéissance si vous ne l'avez fait encore. Il connaît aussi ses brebis personnellement. C'est ce qui ressort aussi de ce passage quand il les appelle par leur nom. Celle qui a une tache sur la patte arrière, celle qui a la tête toujours un peu penchée, celle qui est toujours un peu en train de traîner derrière. Il connaît leur caractère, leur santé, leur solidité, leur fragilité. Même les moins apparents. Et de même pour Jésus, il vous connaît. Il te connaît personnellement. Il sait tes soucis, tes peines, même les plus cachées. Il connaît tes qualités et aussi tes défauts. Il te comprend comme personne ne te comprend. Il te connaît par ton nom complètement. Et puis le verset 14 ajoute que ses brebis le connaissent. Connaissez-vous votre berger? Connaissez-vous l'amour de Jésus? Vous êtes-vous réfugié dans ses bras d'amour? Avez-vous fait l'expérience de sa bonté, de sa puissance dans votre vie? Avez-vous vu sa main bénissante et guérissante agir dans votre existence? Avez-vous marché la main dans la main avec lui, jour après jour et moment après moment? Voici l'histoire d'un pasteur qui visitait un propriétaire de ranch, c'était aux USA, et ils étaient tous les deux en train de marcher sur une berge longeant un profond ravin. Et voici que tout à coup, trois moutons apparaissent dans les buissons. Et pendant un instant, ils restent figés sur place, la tête levée, les yeux terrorisés, une patte en l'air, prêts à s'élancer. Puis d'un seul coup, ils foncent au travers du ravin et les voilà enfuis. Le serviteur de Dieu s'étonne de voir des moutons sauvages sur le territoire d'un ranch d'élevage de moutons. « Justement, dit le propriétaire, mon berger a certainement oublié de les compter, ces moutons-là, il y a 3 jours. 3 000 moutons broutaient paisiblement dans la petite vallée sous leurs yeux. 3 nuits sans berger avaient fait toute la différence. » Et dans la parabole de Jésus, nous voyons que le berger à la brebis perdue se faisait beaucoup de soucis, car il craignait ce que les animaux sauvages pouvaient lui faire. Mais sa détresse était aussi causée par la crainte de ce qui arriverait dans la brebis elle-même. Vous qui avez été jusqu'à présent comme une brebis sans berger, venez à Jésus. Confiez-vous en lui. Vous serez gardés du mal extérieur et aussi du mal qui est à l'intérieur de vous-même. Un athée rencontre un jour un croyant se rendant à l'église. « Où allez-vous de si bonne heure ? » demande-t-il. « À l'église. Mais qu'allez-vous faire à l'église ? Rencontrez Dieu. » « Alors vous le connaissez personnellement, » répliqua ironiquement l'incroyant. « Vous pouvez donc me dire comment il est ? Quelle est son apparence ? Est-il grand ? Est-il petit ?»« Les deux à la fois, » fut la réponse inattendue. « Il est si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. » Mais si petit qu'il peut habiter dans mon cœur. Et quand Dieu vient habiter dans notre cœur, c'est pour y faire son œuvre magnifique, nous délivrer de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression, de l'inquiétude, du désespoir, du remords, de la peur de la mort, de la crainte de la perdition éternelle, et en même temps nous délivrer des passions mauvaises, de notre caractère si lamentable parfois, de nos défauts qui nous pénalisent, avec notre entourage, pour en même temps nous rendre aimants, doux, patients, paisibles, sensibles aux autres, constructifs, positifs, pleins d'espérance, d'esprit de prière, et nous remplir ainsi de sa joie, de sa grâce, de sa félicité, de son bonheur, de l'assurance d'être sauvé, de la foi qui obtient le miracle d'en haut. Amen. Et puis si je poursuis encore maintenant mon troisième grand point, indiqué dans les versets 3 à 5 de notre passage de référence, Jean chapitre 10, nous dit qu'il les conduit, il marche devant elles, il les conduit, il marche devant elles. Si le berger est devant, ça veut dire que tous les dangers de la route le rencontrent avant de nous rencontrer. Cela veut dire que les épines seront foulées, que le chemin sera frayé dans les passages difficiles, que ce berger attentionné aura préparé le chemin devant nous pour que nous puissions y marcher. Dans Ésaïe 35, au verset 8, il est écrit « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivent, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Alléluia. » Mais si le berger est devant, cela signifie aussi qu'il faut le suivre, lui obéir. Faisons cette prière d'un chrétien du Congo. « Cher Seigneur, tu seras l'aiguille et je serai le fil. Tu iras devant et je te suivrai partout où tu me conduiras. » Ou soyons comme ce chien qui suivait son maître. Ce dernier se promenait avec un ami dans la montagne, et le chien, très obéissant, suivait de près les talons de son maître. Ses oreilles et ses yeux attendaient le commandement pour y courir. Et dans la conversation, son maître commença à gesticuler. Il leva son bras dans la direction du précipice. Le chien, fidèle, pensant que son maître lui donnait un ordre, sauta à l'instant dans le précipice pour, hélas, y mourir. Ah, si nous pouvions être aussi prompts à obéir aux ordres du maître, non pas que le bon berger nous donnerait des ordres semblables. Lui ne se trompe jamais et ne nous fait jamais faire quelque chose qui puisse nous faire du mal. Mais si nous lui obéissons, nous en aurons toujours une entière bénédiction. N'hésitons pas non plus à obéir, même sans réfléchir, à partir du moment où nous savons que c'est la parole de Dieu. Même si nous ne comprenons pas tout du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de ce marin à bord d'un bateau de guerre. Et une partie de son travail consistait à tester le système électrique par lequel le commandant signalait ses ordres depuis le pont à la chambre des machines. Il avait des instructions écrites pour tester l'installation chaque fois que le bateau entrait dans le port ou en sortait. Et un jour, le navire en question reçut l'ordre de retourner en mer immédiatement après être entré dans un certain port. Comme il venait d'éprouver les sonneries si récemment, le jeune homme décida qu'il n'était pas nécessaire de recommencer tout de suite. Mais quelque chose ne marcha pas. Et une collision fut évitée de justesse. Une enquête fut faite, le marin convoqué. « Avez-vous éprouvé les sonneries ?» demanda l'officier. « Non, monsieur, » répondit le marin pris en faute. « Je pensais, et il n'en a pas plus loin. » « Vous n'êtes pas ici pour penser, monsieur. Ça, c'est mon travail. Vous êtes là pour obéir. » Et pendant plusieurs jours, pendant qu'il était à l'arrêt, l'homme eut tout le temps d'y réfléchir dans le calme et le repos. Le commandant avait raison, bien sûr. Et Dieu a établi les choses pour réfléchir tout ce qui était nécessaire, afin que nous n'ayons plus qu'à obéir sans arrière-pensée, en suivant avec confiance le berger qui marche devant nous et en obéissant à sa parole de tout cœur. Que nous est-il dit encore à propos du berger ? Chapitre 10, au verset 9, notre quatrième grand point, c'est il est marqué qu'il les sauve. Il les sauve. Il est nécessaire que nous soyons sauvés à cause de cette solennelle et terrible réalité qui s'appelle la perdition. Sur les berges du Niagara, là où les rapides commencent à écumer et à tourbillonner d'une façon désespérée en se préparant à leur plongeon final dans les grandes chutes, il y a un panneau qui porte l'inscription suivante. Past Redemption Point, c'est-à-dire le point au-delà de tout rachat, le point de non-retour en fait. Et même quand on sent le sol ferme sous ses pieds, on ne peut pas s'empêcher de frissonner, d'avoir des vertiges, en regardant les eaux turbulentes et tumultueuses et en réalisant toute la signification de ce signe « point au-delà de tout rachat ». Personne ne peut revenir en arrière s'il a passé ce point-là. Et ainsi en est-il dans la vie de chacun d'entre nous. Personne ne peut revenir en arrière s'il a passé un certain point de non-retour. Il y a une ligne de démarcation sur laquelle nous ne pouvons plus revenir en arrière une fois que nous l'avons dépassée. On raconte l'anecdote du décès de Sir Francis Newport, qui était le président d'un club athée anglais. Et voilà qu'à l'heure de son lit de mort, il s'adressa à ceux qui étaient rassemblés là et leur dit « Ne me dites pas qu'il n'y a pas de Dieu, car je sais qu'il y en a un et que je suis déjà dans sa terrible présence. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'enfer, car je sens déjà mon âme qui glisse dans ses flammes. Misérable, cessez de parler stupidement en disant qu'il y a de l'espérance pour moi. Je sais que je suis perdu pour l'éternité. » Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions tous nos efforts pour échapper à la colère qui vient. Et nous confier au bon berger, qui seul peut nous sauver. C'est un homme de Dieu qui raconte la touchante histoire d'une petite fille qui demande à sa maman « Pourquoi n'allons-nous jamais à l'église comme mon ami et sa famille ?» Et celle-ci lui répond « Tout simplement, ma chérie, parce que nous ne croyons pas en Dieu. » La petite fille resta silencieuse pendant une minute ou deux, puis elle posa une deuxième question. « Maman, dis-moi, est-ce que Dieu sait que nous ne croyons pas en lui ?» David déclara il y a longtemps, « Le fou se dit, l'insensé se dit, il n'y a pas de Dieu. » C'est dans le psaume 14, au verset 1er. Plusieurs milliers d'années plus tard, la vie de Friedrich Nietzsche a illustré magistralement l'affirmation du psalmiste. Le philosophe qui refusait de croire en l'existence de Dieu est bel et bien mort fou. D'abord enfermé dans un asile d'aliénés à Iéna, en Allemagne, avant d'être transféré chez sa mère, où il s'éteignit après 11 années de démence profonde. Paul déclare, en effet, ce qui chez lui est invisible, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne à travers ses ouvrages. Romains chapitre 1, verset 20. Or, Nietzsche avait reconnu, avant de sombrer dans la folie, que l'absence de Dieu menait tout droit au nihilisme et au désespoir. L'homme sans Dieu ne trouvait plus aucune raison d'exister. Rares sont ceux qui ont réussi, comme Sartre le prétendait, à donner un sens à leur existence au-delà du désespoir. Même si tous les athées ne finissent pas fous, comme le philosophe allemand, ils seront pour l'éternité séparés de celui qu'ils ont rejeté. Il n'est donné aux hommes qu'une seule existence. Et ensuite vient le jugement, nous enseigne l'Écriture. Un dernier point, Dieu n'a pas besoin que soit prouvée son existence. Ce qu'il recherche, c'est une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et pour cela, il nous a écrit une véritable lettre d'amour, dans laquelle il se livre intimement, c'est l'Écriture sainte, c'est la Bible, c'est sa parole. Combien il est important de l'ouvrir chaque jour. Jésus veut nous sauver, mais il faut que nous nous tournions vers lui pour cela. Comment faire ? Paul Rader, donc cet homme de Dieu, a eu plusieurs fois des entretiens avec un certain banquier de New York. Mais celui-ci lui répondait qu'il était trop occupé pour réfléchir aux choses de Dieu. Et puis malheureusement, il se surmena et fut envoyé dans un sanatorium pour un repos complet. Et un jour, Dieu parla à Paul Rader. « Va !» et parle à un tel. Rader prit le train et se rendit le plus vite possible dans ce sanatorium qui était somptueux. En approchant, il vit sa connaissance, le banquier, qui était debout dans le couloir. « Oh, Rader, dit-il, je suis tellement content de vous voir. »« J'ai reçu votre télégramme, dit Rader. »« Mais c'est impossible, j'ai écrit un télégramme pour vous prier de venir, mais ensuite je l'ai déchiré, je ne l'ai pas envoyé. J'ai pensé que c'était trop tard pour moi. »« Peut-être, dit Monsieur Rader, mais votre message m'est parvenu par la ligne du ciel. » Et découvrit que son ami avait une profonde conviction de péché, et il lui révéla Christ, le parfait sauveur. Cet homme accepta Christ comme son sauveur et son cœur fut rempli de joie. « Rader, dit-il, avez-vous jamais remarqué que le ciel était si bleu et l'herbe si verte ?»« Ah, dit Rader, il y a un beau cantique que nous chantons parfois et qui dit « Le ciel en haut est un bleu plus tendre, la terre autour est d'un vert plus doux. » Quelque chose vit dans chaque nuance que des yeux sans Christ n'ont jamais vu. Tout à coup, le banquier s'appuya contre M. Rader et tomba dans ses bras, mort, mais sauvé. Envoyez-vous aussi un télégramme au Seigneur. Appelez-le de tout votre cœur et avec simplicité pour qu'il vous sauve et il le fera. Dans un contexte tout différent, voici une autre histoire pourtant semblable. Howard et Jill Sayers pensaient faire une simple visite de courtoisie dans un village éloigné de Guinée-Bissau. Mais ils découvrirent le chef du village allongé par terre et crachant du sang. Il avait de toute évidence besoin d'une aide médicale urgente. Mais ce n'était pas là sa préoccupation première. Il désirait connaître l'explication d'un songe qui lui revenait constamment. D'une voix faible et entre deux quintes de toux, il le décrivit. Il y avait tout d'abord un tunnel, puis un paysage magnifique. Qu'est-ce que cela signifiait ? Les missionnaires lui répondirent que Dieu lui parlait et voulait qu'il vienne dans ce lieu préparé pour lui. Mais le seul chemin pour y parvenir était en Jésus. Howard et Jill savaient bien que, en tant que chef du village, cet homme était en contact avec de mauvais esprits. Oseraient-ils courir le risque de déclencher leur colère pour se tourner vers Jésus-Christ ? Oui, répondit-il. Il voulait le faire. Ils lui donnèrent un jour de réflexion et se proposèrent de l'emmener le lendemain à la clinique. Le seul moyen de transport qu'ils purent trouver fut une brouette. Il n'y avait aucune route qui mène au village. Ainsi, assis dans la brouette, le chef parvint à la clinique. Là, ils demandèrent à un pasteur de venir parler avec lui. Voulait-il simplement, toujours, venir à Jésus ? Oui, fut la réponse immédiate. Le pasteur lui expliqua que Jésus avait donné sa vie pour porter nos péchés et ouvrir le chemin qui mène à Dieu. Voulait-il accepter Jésus ? Oui. Toujours assis dans sa brouette, le chef du village pria, demandant à Jésus de venir dans sa vie. Quelques semaines plus tard, de retour au village, il invita les chrétiens à venir assister au moment où il allait brûler idoles et amulettes. Le dimanche suivant, beaucoup de monde s'était assemblé au centre du village. Le pasteur annonça l'évangile et expliqua que leur chef, désormais, s'était détourné des idoles pour suivre Jésus-Christ. Puis le chef, âgé, ordonna à ses fils de jeter tous ces objets magiques et idolâtres au feu. Les chrétiens se réjouissaient. Quel feu ! Mais bien des villageois étaient terriblement effrayés. Les esprits allaient-ils se venger ? Quelques semaines plus tard, le vieux chef décéda. Les missionnaires s'attendaient à voir des conversions dans ce village. Il fallut attendre quelques années, mais ensuite une église fut établie et 17 membres de la famille élargie du vieux chef se convertirent. Ainsi, en tout temps, en tout lieu, en toute culture, en tout caractère, en toute personnalité, le Seigneur veut faire son œuvre de nouvelle naissance, de foi, de transformation et de salut éternel. Et puis si je poursuis encore mon cinquième point maintenant, au chapitre 10, au verset 10 de Jean, il est marqué là qu'il leur fait trouver des pâturages, qu'il leur donne la vie en abondance. Lorsque nous venons à Christ, combien il nous manifeste son amour en nous bénissant de toutes sortes de façons. Notre grand problème, ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas, bien souvent. C'est que nous n'avons pas confiance en lui pour nous approcher de lui et qu'il puisse ainsi répandre sur nous toutes ses bontés. Nous ne croyons pas qu'il veut nous aimer ainsi parce qu'au fond de nous-mêmes, nous savons bien que nous ne le méritons pas. C'est l'histoire de ce jeune homme qui était troublé parce qu'il aimait si peu le Seigneur et pensait ne pas mériter d'amour en retour. Et voici qu'un de ses amis chrétiens lui dit « Quand je te quitterai tout à l'heure, je pense rentrer chez moi, prendre mon bébé sur mes genoux, regarder dans ses yeux, écouter son gazouillis, et même si je suis fatigué, sa présence me reposera, car j'aime cet enfant d'une très grande tendresse. » Mais lui ne m'aime pas beaucoup. Si mon cœur se brisait, ça ne l'empêcherait pas de dormir. Si mon corps était brisé par la souffrance, ça ne l'empêcherait pas de jouer. Si je mourais, il m'oublierait en quelques jours. En plus de cela, il ne m'a jamais rapporté un centime, mais m'a toujours fait faire des dépenses. Je ne suis pas riche, mais il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour me racheter mon bébé. Pourquoi cela ? Est-ce que c'est lui qui m'aime ou moi qui l'aime ? Est-ce que je vais retenir mon amour jusqu'à ce qu'il me manifeste le sien ? Est-ce que je vais attendre qu'il fasse quelque chose de digne de mon amour avant de le lui donner ? Et cet homme, son interlocuteur, comprit ainsi l'amour de Dieu pour lui. Comprenons-nous aussi cet amour pour nous et confions-nous en celui qui nous a tant aimés et veut nous donner de verts pâturages une vie véritable et abondante. Béni soit son nom. Notre sixième et avant-dernier point, au verset 11 et verset 15, nous rappelle qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Combien notre grand berger a donné pour nous ? Nous voyons qu'il a quitté la gloire du Père. Il s'est abaissé au-dessous de tous les cieux. Il a mené une vie de pauvreté, de sacrifice, d'abnégation, de don de soi pour le bien de tous. Dépensant et se dépensant sans compter, donnant sa vie en sacrifice suprême sur la croix, ressuscitant, et c'est encore pour nous, pour notre justification, assis à la droite du Père, et c'est encore pour intercéder pour nous continuellement. Nous avons un bon berger qui non seulement a donné, mais donne encore et toujours sa vie pour ses brebis. Elle est bénie, oui, la brebis qui se confie dans un tel berger. Enfin, ce rappel du verset 16, notre septième et dernier point, c'est qu'il y a un seul berger. Il n'y a pas plusieurs sauveurs, mais un seul. Il n'y a pas plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas plusieurs rédempteurs pour nous racheter de nos fautes. Il n'y a pas plusieurs paroles de Dieu qui indiqueraient plusieurs voies pour aller à Dieu. Il n'y a pas plusieurs bergers. Il y a un seul bon berger, dit notre passage. Dans Jean 14, 6, le Seigneur dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et l'apôtre Paul insiste, dans 1 Timothée 2, verset 5, « il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Venez à lui, car lui seul peut vous sauver. Il le fera parfaitement, dans son immense amour et son désir de salut pour vous. Alors Jésus, rappelons-nous, est celui qui entre par la porte de la parole. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il t'appelle aujourd'hui par ton nom. Il les conduit en marchant devant elles. Il les sauve parfaitement, dès ici-bas et pour toujours. Il leur donne la vie en abondance, là encore, ici-bas, et la vie éternelle après. Il donne sa vie pour elles. Il est le seul vrai berger. Amen. Amen. Mais Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons encore, parce que tu es celui qui ainsi veut produire dans nos cœurs la foi qui sauve. Et merci pour tous ceux qui maintenant, lorsque nous adressons cet appel, tous ceux qui maintenant veulent te recevoir dans leur cœur, te prendre comme leur bon berger. Fais monter vers toi cette prière, Seigneur, viens, entre dans ma vie, sois celui qui conduit et qui dirige toutes choses. Je me remets entre tes mains, je veux te faire confiance, je veux te laisser vraiment la direction de toutes choses dans mon existence. Que tu puisses venir, que tu puisses agir, et que je puisse véritablement être une brebis confiante et obéissante, suivant son berger, le meilleur des bergers. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes amis, frères et sœurs, je vous rappelle simplement que nous avons en vue la prédication de dimanche matin sur notre site. Le même jour, il y a aussi le WhatsApp qui est prévu pour les sujets de remerciements et de louanges à notre Dieu. Je vous rappelle également la réunion de prière à l'église qui doit se dérouler, Dieu voulant, mercredi soir prochain. Et la prédication sera aussi mise sur le site à la suite. Et puis dimanche encore, il y aura des annonces importantes sur la suite de notre programme, les prochains temps. Donc ceci en accompagnement de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse.